Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Fabrice Manuel, mon invité d'aujourd'hui, a des attaches dans le Gard, du côté de Junas, où il a créé le festival de jazz. Depuis bientôt 25 ans, son parcours professionnel dans le monde de la culture et des collectivités locales l'a conduit à Rouen, à Marseille et à Montpellier comme directeur culture et patrimoine de la région Languedoc-Roussillon. Puis, il a été directeur de cabinet à la ville et à la métropole de Montpellier avant d'y être directeur général adjoint de la culture, du sport et de la jeunesse. Passons sur le CV. Il est aujourd'hui collaborateur de cabinet à la ville et à l'agglomération de Sète, chargé du développement et du suivi des projets culturels. On verra ce dont il s'agit. À partir de cette double connaissance de l'univers des artistes, des créateurs et du monde des institutions publiques, il va nous éclairer sur les perspectives et les enjeux de la culture, vus depuis Sète, bien sûr. Fabrice Manuel, racontez-nous votre Montpellier. D'abord, quels sont les lieux, qu'ils figurent sur les cartes postales ou pas, que vous aimez particulièrement dans cette ville ?
Alors moi, je suis un enfant d'Antigone. Je suis un enfant d'Antigone puisque à l'âge de 10 ans, ma maman a voulu absolument que j'aille visiter Antigone parce que c'était pour elle un endroit magique. Elle passait toutes ses vacances à Palavas et donc nous sommes allés au tout début d'Antigone.
Antigone au moment où, me semble-t-il, pour l'avoir suivi, l'appropriation d'Antigone par les habitants n'était pas là, où il y avait un ou un refus.
Exactement. Elle y allait parce que, en habitant à Toulouse, elle trouvait que c'était un lieu décrié. On attendait que c'était un lieu décrié. Et je me souviens, mon ressenti d'enfant, c'était un lieu magnifique. Ma maman en était très heureuse. Jamais je n'aurais imaginé que mes pas m'auraient conduit quelques années après. D'abord, avec mon père qui a vécu à Antigone, ma petite sœur qui a été à l'école d'Antigone, et ensuite moi qui, en 2004, ai habité Antigone, et mes enfants sont à l'école d'Antigone, et ont tous fait leur scolarité Antigone, et je reste là, dans cette place du Nombre d'Or, où les enfants jouent au ballon. J'ai un petit faible aussi pour l'endroit de l'arbre pendu, et à l'endroit où les sorcières de Montpellier viennent faire la danse de sabbat. Donc c'est un endroit assez mystérieux. J'ai évidemment...
Dites-nous, c'est cet endroit. Pour tout dire, parce qu'ici on se dit les choses, je ne vois pas où c'est.
Cet endroit est un endroit assez étonnant, qui est pas loin de l'endroit où la dernière sorcière de Montpellier a été brûlée, en dessous du parc de Lavalette. Et le gibet où étaient pendues les sorcières est à l'endroit actuel du château d'eau, à côté du zoo du Lunaret.
D'accord.
Et donc, il y a des ouvrages qui racontent la danse des sorcières de Saba. Et là, pareil, je suis allé voir avec mes enfants cet endroit. J'aime beaucoup le toit du Corum. Toit du Corum qui donne...
Malheureusement, il est plus accessible.
Mais il a été pendant longtemps. Oui. Et voilà. Et puis après, je suis un oiseau de nuit de spectacle. Je suis un oiseau de nuit de la ville de Montpellier depuis toute ma vie d'étudiant, aujourd'hui ma vie d'acteur culturel. Et je vous avoue que Montpellier la nuit est une ville qui me plaît, qui m'inspire. Je trouve qu'il y a toujours des magies dans cette ville. Et puis évidemment, toute cette relation à la mer et à la nature.
Et alors quand vous allez recevoir des amis ou des parents qui viennent à Montpellier, qui ne connaissent pas ou peu, sans vous substituer à l'office de tourisme, qu'est-ce que vous leur dites de la ville ? Et pour le coup, en quoi cette ville, vous en connaissez d'autres, se caractérise-t-elle ? Quel est le style Montpellier ou la Montpellier Touch ?
Alors la Montpellier Touch, elle est cette connexion entre la modernité d'un certain nombre d'immeubles, évidemment encore du quartier d'Antigone, mais pas que, avec tous ces immeubles qui aujourd'hui font leur spécificité, font de la magie. Je leur parle de Ricciotti, je leur parle de Fujimoto, je leur parle des autres architectes qui ont marqué cette ville. Et je leur parle aussi évidemment de toute cette relation à l'Écusson, à la Canourgue, avec le clin d'œil que je peux faire quand je leur dis « venez boire un café en dessous des des ailes de scarabée, parce que ça, c'est un endroit qui est aussi très inspirant et très amusant, de confrontation entre l'art contemporain et un bâtiment ancien. Et donc, du coup, je leur parle de cette aller-venue, de cet aller-retour entre l'histoire et le 21e siècle. Et je crois que ça, c'est assez exceptionnel dans les bâtiments, mais c'est aussi, on le voit aussi beaucoup dans les habitants. Et du coup, dans cette jeunesse, dans cette liberté de la jeunesse. Et aujourd'hui je me reconnais là-dedans et c'est ça que je veux faire transmettre aux gens qui viennent.
Voir un certain hédonisme propre à Montpellier. La mer, le soleil, bon, c'est un peu cliché, ça.
Pour moi, c'est cliché. C'est-à-dire que c'est pas plus un hédonisme. Je crois que c'est une qualité de vie, c'est une liberté. C'est-à-dire, je crois que vraiment, le mot qui, pour moi, qualifie Montpellier, c'est une grande liberté. Et après, non, c'est pas un hédonisme, parce que c'est une ville qui travaille, c'est une ville qui œuvre dans beaucoup de secteurs et qui est très active, très imaginative. Donc non, c'est pas plus hédoniste qu'ailleurs. Je crois que c'est une ville qui bouge et une ville avec des gens qui font bouger cette ville.
Et est-ce que la ville a beaucoup grandi dans sa dimension, dans sa population, vous l'avez évoqué, avec les effets que ça a, pas simplement sur les annuits circulatoires actuelles dont on parle beaucoup, mais dans l'échelle, sans jeu de mots, dans l'échelle de la ville, cette croissance démographique et urbanistique, quel jugement vous portez sur elle?
Alors moi, j'ai toujours pensé que cette ville avait très bien géré cette croissance, à la fois en matière d'urbanisme, mais aussi en matière sociale. C'est-à-dire que mes années de directeur de cabinet, par exemple, m'ont fait prendre conscience que finalement, c'est une ville où il n'y a pas de fracture. Il y a des difficultés sociales, c'est une évidence. Il y a des gens qui souffrent, c'est une évidence. Mais par contre, c'est une ville sur laquelle il y a une unité, il y a beaucoup d'espaces d'implication, des espaces d'intégration. Donc il en faut toujours plus. Il ne faut jamais cesser. Le militantisme associatif et le terreau associatif est fondamental et il ne faut jamais baisser les bras là-dessus et jamais s'asseoir sur cela. Mais je crois que c'est une ville qui a su extrêmement bien intégré, qui a su créer une identité et un partage de valeurs, que ce soit humaine, que ce soit celle dont je te parlais de liberté, celle des mœurs. Et je crois que tout ça fait qu'il y a un vivre ensemble assez exceptionnel à Montpellier. Et on le voit, c'est une ville qui n'est pas agitée par des conflits sociaux,
comme on
radicaux,
le voit dans notre ville.
Comme on le voit dans une ville. C'est une ville où il n'y a pas de quartier fermé. C'est une ville sur laquelle il peut y avoir des endroits qui sont difficiles. Je ne suis pas naïf. Mais à un moment donné, aucun quartier n'est interdit. Et tous les quartiers ont une vie et une vivacité. Et je crois que c'est ce Montpellier-là dans lequel moi je me reconnais et que par mes rôles avant tout culturels mais à un moment donné politiques, j'ai voulu aussi promouvoir et soutenir.
Donc si je comprends bien, ce dont on parle souvent, une relégation territoriale associée à une relégation sociale, telle qu'on a pu la voir dans d'autres villes, vous l'avez évoqué, c'est moins le cas à Montpellier selon vous.
Ah oui, parce que Montpellier est toujours, ce que je disais tout à l'heure, toujours en action. Aujourd'hui, il y a des choix qui ont été portés sur des entreprises, des choix économiques, des choix culturels, qui sont toujours des choix pour aller vers l'avant. Et donc, du coup, je crois que cette ville ne cesse de grandir, cette ville ne cesse de se développer, et elle ne se développe pas sur des fondements qui sont des fondements de repli ou d'inaction. Et donc, du coup, cette mise en mouvement perpétuel, c'est un atout de cette ville, et c'est une ville jeune. C'est une ville sur laquelle la jeunesse est une chance énorme, et non pas que la jeunesse soit l'alpha et l'oméga de la dynamique, mais aujourd'hui, cette jeunesse, elle est celle qui apporte des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de fonctionner. Et on voit les entreprises qui aujourd'hui sont moteurs, sont beaucoup tenues par des gens entre 30 et 45 ans, qui sont aujourd'hui qui sont en train de renouveler une façon de voir cette ville, de voir la ville le jour, de voir la ville la nuit. On voit une transformation de la ville des soirées. Et on voit les personnes qui sont dans ces soirées, on le voit dans les choix aussi immobiliers, dans les choix de quartier. Mmh. Et tout ça, on voit que c'est porté par des gens de dynamique.
Notamment dans ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, qui sont beaucoup développées à Montpellier. et qui constitue, je veux dire, un des facteurs, une des illustrations là, de l'innovation et du nouveau, quoi.
Exactement. Je crois que ça, c'est un formidable symbole. C'est un symbole qui traduit ce que je décris. C'est-à-dire que la dynamique des industries culturelles et créatives, c'est la jonction d'une action politique, celle d'abord de Georges Frêche en tant que président de région qui décide de miser fortement sur le cinéma et l'audiovisuel. Ensuite, avec l'aglo, avec Georges Frêche et les élus qui lui ont succédé, qui ont misé là-dessus. Et aujourd'hui, 10 ans, 10, 12 ans, 15 ans après, on voit qu'il y a adéquation entre une dynamique politique et une dynamique économique. Et on voit l'adéquation entre des façons de vivre avec des façons de travailler. Et je crois que ça, c'est la marque de cette ville. Et c'est vrai que l'industrie culturelle et créative fonctionne. Elle fonctionne parce que des hommes et des femmes politiques ont senti des choses. Et à un moment donné, elle fonctionne parce que derrière, les gens qui font ce secteur-là sont, en bonne adéquation avec cette ville, en phase avec ce territoire. Et ils correspondent à quelque chose qu'eux ont envie de dire et envie d'écrire et envie de vivre avec leurs enfants, avec leurs compagnes ou avec ou seuls en action sur leur métier.
Alors, parlons de 7, ou plutôt de Montpellier 7, parce que comme chacun l'a compris, bon, vous êtes un pied à 7, un pied à Montpellier, le cœur à Montpellier, mais aussi, j'imagine, le cœur à 7.
Oui, de plus en plus.
Alors, comment parler des relations entre Montpellier 7? Alors, Georges Frêche, il y a longtemps, avait tenté une alliance politique avec le maire de 7, sans succès. Bizarrement, à mon sens, dans son développement économique, Montpellier n'a jamais pensé réellement 7 comme son port, en disant, bon, 7, c'est le port de commerce de Montpellier. Aujourd'hui, Montpellier 7 sont alliés dans la conquête du titre de capitale européenne de la culture. On va bien sûr en parler. Sur le plan non pas institutionnel, mais personnel, sur le plan des sensations ou des représentations, que dites-vous de ces rapports entre Montpellier et 7, ou plutôt entre les habitants des deux villes? Je vais à 7 pour manger des crustacés, pour changer d'horizon, et je vais peut-être faire à Montpellier autre chose que je fais à 7. Donc dans ces va-et-vient, dans ces flux, comme disent les géographes, entre les deux villes.
Alors déjà, Sète est une ville qui a sa propre existence, sa propre histoire. Et ça, c'est déjà essentiel. C'est-à-dire que Sète s'est construit à côté de Montpellier et ne s'est pas construit par rapport à Montpellier. Donc du coup, ce que je vis aujourd'hui, c'est une très forte identité, une très forte
singularité,
mais et du coup avec un terreau local qui est extrêmement riche. Il est riche avec plein de choses. Il est riche d'une histoire, mais il est riche aussi de beaucoup de gens qui arrivent à Sète et qui sont imprégnés par cette histoire de Sète. Et moi, je dis toujours, on est dans une ville de 43 000 habitants et je vis un tissu culturel exceptionnel, qu'il soit le tissu culturel aidé par les collectivités de l'agglomération du bassin de Thau, de cette aglopole ou de la ville de Sète, mais ceux qui ne sont pas aidés, c'est-à-dire ceux qui vivent à Sète, que ce soit des collectionneurs, que ce soit des artistes, que ce soit des producteurs, tous ces gens qui aujourd'hui ont choisi Sète et qui sont inspirés par Sète. Et ça, c'est exceptionnel. Et donc, du coup, cette histoire-là, elle a sa propre autonomie, elle a son propre fonctionnement. Aujourd'hui, ce qui se crée dans le cadre de la candidature de capitale européenne à la culture, c'est comment la question n'est pas un lien juridique entre Sète et Montpellier, la question est un lien de partage de projets. Et ça, je crois que c'est essentiel.
On va en parler.
C'est très important. C'est-à-dire qu'on est dans... Comment les gens font pour travailler ensemble? Moi, c'est quelque chose qui a toujours nourri mon engagement, qu'il soit associatif, comment des associations arrivent à travailler ensemble pour être plus forts, comment aujourd'hui des collectivités, comment des acteurs culturels arrivent à travailler ensemble aujourd'hui. Et donc, je crois qu'on parle d'égal à égal, même si la métropole, c'est la grande métropole, mais aujourd'hui, Sète a tellement d'atouts qu'elle parle la même langue et au même endroit. Et Montpellier respecte le maire Michael Delafosse respecte François Comaigne. On parle de même endroit, avec chacun ses particularités et ses forces spécifiques. Et ça, je crois que c'est exceptionnel dans le sens de ce qui se joue aujourd'hui.
Alors, vous l'avez évoqué, mais peut-être on peut commencer par ça. Pour les auditeurs et auditrices qui n'en ont qu'une vague idée, quel est votre métier, quoi? Comment et sur quoi travaillez-vous? Parce que bon, vous êtes de ceux qui sont plus dans l'ombre que dans la lumière, c'est normal. Mais voilà, pour expliquer un peu qu'est-ce que vous faites, voilà. Alors, quoi correspond votre activité professionnelle?
Moi, mon métier, donc, je travaille auprès de François Comen, je suis sur le conseil culturel. Et dans les missions que François Comen m'a confiées, il y a en premier lieu donc cette candidature de capitale européenne de la culture. Mais à côté de cela, il y a un énorme projet que François Comen veut engager autour de la ZAC Est, qui est la ZAC de l'entrée de Sète autour du conservatoire, et sur lequel François Comen voudrait que cette zone d'activité commerciale soit à dominante culturelle autour du conservatoire. Donc c'est un des gros chantiers que nous avons aujourd'hui. Ensuite, il y a la rénovation de l'auberge de jeunesse de Sète, qui est devenue depuis le 1er janvier dernier un espace de résidence d'artistes, donc sur lequel nous invitons
où
aujourd'hui.
Est-elle, hein,
elle est en face, sur le Mont-Saint-Clair, elle est en face de l'école des Beaux-Arts que nous sommes en train de rénover. Et donc c'est un très beau lieu sur lequel un architecte est en train de travailler, sur lequel nous avons, dans les perspectives de capitale européenne, la volonté d'ouvrir ce lieu pour 2028. Ensuite, il y a évidemment toutes les relations aux artistes de Sète, tout le travail sur l'art dans l'espace public. Et donc là, par exemple, il y a la grande fresque que va réaliser Robert Combas en plein centre-ville, dans la future salle dédiée aux associations, et le grand projet de Jean-Michel Autoniel sur la place Victor Hugo, qui vient d'obtenir une des plus belles commandes publiques françaises, un des soutiens du ministère.
Projet Autoniel, donc,
voilà, projet Jean-Michel Autoniel, place du Victor Hugo, en face du théâtre de la scène nationale, qui correspond à la fois à une fontaine et à la fois à la rénovation des bains douches. Et donc tout ce lien aux acteurs culturels, puisque vous l'avez dit, la base de mon action professionnelle est ce lien aux artistes, et aujourd'hui je suis au cœur de ce lien avec les artistes.
Bien, donc ça donne un terme d'autres occasions pour les Montpellierains d'aller à Sète, vous l'avez évoqué. Alors, sur l'opération, la démarche, l'enjeu capital de la culture, on va reprendre quand même les éléments fondamentaux pour que les auditeurs et les auditrices s'y retrouvent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette distinction européenne, je dirais? À quoi peut-elle servir? À quoi elle commence-t-elle à servir?
Voilà, alors,
pour rappeler l'enjeu, quoi.
Oui, alors, l'enjeu, ce titre a été fondé par Mélina Mercouri il y a maintenant des années. On en est, pour la France, à la quatrième choix. Le premier a été Avignon, mais c'était assez confidentiel. Le deuxième a été Lille, et il a extrêmement marqué l'histoire du monde culturel. Il sert de repère. Ensuite, Marseille. Et aujourd'hui, donc, ce nouveau choix. Donc, je crois qu'on est à un tournant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'envisage. On est à un tournant des capitales européennes à culture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la quatrième ville française pour Lille et Marseille, des grandes villes. Aujourd'hui, si vous regardez les 9 candidatures, si on enlève Nice, nous sommes sur des villes de taille moyenne.
On va les citer, hein, Rouen, voilà. Amiens, Bastia, Bourges, Reims, Clermont-Ferrand, Nice donc, et Saint-Denis.
Voilà.
Saint-Denis, pas Saint-Denis de la Réunion, mais Saint-Denis, banlieue parisienne.
Et donc, on est sur des villes de taille moyenne. Et donc, du coup, on est sur quelle est la place d'une ville de cette strate dans le paysage européen. Moi, je dis depuis le début que Montpellier et aujourd'hui l'Alliance Montpellier 7 est un atout pour la France et pour l'Europe dans un paysage européen. Aujourd'hui, avoir des capitales européennes de la culture de petite taille, c'est affaiblir le symbole.
Le
symbole européen. Et donc, si demain la France veut peser dans le paysage national et international, à un moment donné, il faut une capitale qui ait quelque chose à rencontrer et qui pèse sur les enjeux culturels européens et sur les enjeux culturels, comme a pu le faire Lille. Et donc, du coup, la candidature de Montpellier est pour moi une évidence dans son histoire, celle de Montpellier 7 et d'un territoire encore plus large comme on est en train de le construire, c'est poser des jalons sur une capitale européenne extrêmement grande et sur un territoire qui va tenir sur plus de 142 communes.
Alors, outre 7 et l'agglomération de 7, quels sont les autres partenaires principaux?
Pèze-Hague de Pèzenas, Héros Méditerranée, Palavas-Mogou Mogio sur le Pays de l'Or, le Pic Saint-Loup avec les Mattel, entre autres, la Vallée de l'Hérault avec Gignac et Lunel, donc avec le Pays de Lunel. Et on voit que ça, c'est le cercle premier. Donc ensuite, vont se joindre à nous d'autres collectivités probablement, parce qu'on voit cette dynamique, on voit l'importance de ce que ça donne. Et surtout, c'est une candidature de concorde politique. C'est-à-dire que pour moi qui suis, vous l'avez dit dans mon CV tout à l'heure, dans mon parcours, ce territoire a été souvent marqué par des conflits politiques. Aujourd'hui, autour de cet enjeu culturel, qui est l'enjeu symbolique fort, majeur de beaucoup de sujets, aujourd'hui, tous les élus sont unis. Et ça, c'est rare et c'est unique.
C'est presque, oui, c'est ça. C'est-à-dire, bon, ça résulte quand même de la volonté politique de Michael de la Fosse qui a voulu apaiser, pour prendre un mot utilisé peut-être trop, les relations, y compris des relations avec les collectivités locales politiquement proches. Donc, et notamment les conditions dans lesquelles s'est développée la relation avec la région Occitanie et le département de l'Hérault. Mais ça va au-delà. Bon, ça a été évoqué notamment aussi par le maire-président, ou par des alliances, des coopérations en termes de développement et d'attractivité économique. Et alors, ce mouvement-là, bon, dans la position où vous êtes, bon, c'est difficile, j'imagine, de dire non, mais la mayonnaise prend ou a pris. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Est-ce que ce qui tient sur le papier était sympathique en soi? Est-ce que, voilà, ça marche?
Moi, je vais vous dire, ce que vous dites là, c'est, évidemment, c'était mon interrogation. J'ai vécu un moment très important. Une délégation est partie à Bruxelles, donc Michael de la Fosse, Claire Fitta, Zita Chelvy et François Comaigne.
Pour déposer le dossier.
Pour aller défendre le dossier à Bruxelles. On a passé 2 jours et demi. Pendant 2 jours et demi, j'ai vu 4 élus et des techniciens autour. On n'a parlé que culture, que capitale européenne, et avec des gens qui étaient extrêmement concentrés, extrêmement complémentaires dans leur position politique. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et il y a quelque chose qui est un mouvement qui est en train de naître. J'ai la chance de voir une des actions aussi qui avait été menée dans mes fonctions précédentes, celle des JO, où Sète, Montpellier et Millau sont aussi associés. Et donc on voit bien territoire de jeu. On voit bien que sur ces deux exemples de coopération, de projet, on voit bien que c'est en mettant les gens autour de projets qu'à un moment donné, on arrive à faire avancer les mentalités et on arrive à faire bousculer les logiques partisanes. Et dans cette période où aujourd'hui, on voit bien que le monde politique est un monde qui se désagrège, mais qui va se reconstruire. Et il va se reconstruire autour de communautés de projets. Et moi, je crois à ça énormément. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas les bonnes intentions. Ce qui fait les hommes, ce qui fait les alliances, ce qui fait les unions, ce qui fait la pacification, c'est de tomber d'accord autour d'un projet. Et aujourd'hui, ce que je vis, moi, sur le monde culturel, avec la candidature des capitales européennes, c'est ça. Et c'est pour ça que je veux plus que tout être au second tour de la capitale européenne de la culture. La gagne, on verra. La gagne,
ah oui,
c'est d'autres enjeux.
Prochaine étape pour des fins d'année, c'est
non,
ça
non, 1er mars, le jury, 3 mars, la décision. Mais si on est au second tour, ça veut dire qu'au second tour, on va jouer pour la gagne. Donc ça veut dire qu'on a besoin qu'on soit tous derrière. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs économiques qui nous ont fait des lettres, la Chambre régionale de commerce, la CCI sur Montpellier,
le Conseil économique et social,
tous ces acteurs économiques qui sont derrière nous, à un moment donné, ils vont devoir avancer encore plus loin. Les politiques vont aller encore plus loin pour aller poser les engagements. Et tout ça, ça va donner une force incroyable. Après, on gagnera, on ne gagnera pas. Ça, c'est la vie d'un projet. Mais à un moment, on aura tellement porté de choses que demain, d'autres projets vont naître. Et c'est une obligation et ça va se faire comme ça parce que quand les gens apprennent à travailler ensemble, ils poursuivent à travailler ensemble. Et du coup, il y aura un temps après où il y aura d'autres instances où il y aura des discussions à d'autres endroits, à d'autres temps, mais il y aura surtout un apprentissage du travail en commun. Et ça, moi, j'y crois depuis tout le temps. Ça a toujours ce qui m'a guidé dans ma vie associative ou dans ma vie professionnelle.
Alors, il y a le projet, conquérir ce titre. Il y a les projets, donc il y a 50 projets, donc un premier appel projet qui a été lancé, 50 projets qui a été retenu. Je vous ai invité à donner des précisions. Et puis, un second appel projet là, qui est en cours. Donc on aura le résultat dans quelques temps. Alors, ces projets, donc inscrits dans le territoire, comme dans ce vaste territoire, sans rentrer bien sûr dans le détail, Comment peut-on les caractériser ? Qu'est-ce qui en donne peut-être le sens ou la couleur particulière par rapport à ce qu'étaient des projets déjà existants, j'imagine, et des projets nouveaux qui se sont inscrits dans cette démarche ?
Alors, il y a deux choses. Il y a les deux appels à projets, celui dont vous faites écho, les 50, et le prochain dont on va voir les résultats d'ici 10-15 jours. Ces appels à projets, ils ont pour objectif de pousser les gens à travailler ensemble. Ils ont pour objectif de mettre encore plus en valeur la question européenne. Et ils ont pour objectif de rentrer, notamment pour le second appel à projets, dans les thématiques défendues dans le dossier de candidature. C'est-à-dire notamment les enjeux environnementaux qui sont un des axes forts de cette candidature. À côté de ces appels à projets, il y a le dossier de candidature. Et dans ce dossier de candidature, nous avons mis un certain nombre de projets qui ne sont pas des projets de l'appel à candidature, mais qui sont des projets qui vont tenir le territoire et qui sont ceux qui devraient. Ils ne seront pas exclusifs. D'autres se rajouteront d'ici 2028. On va laisser toutes les portes ouvertes. Mais il y a un certain nombre de projets qui vont être dans ce dossier de candidature.
Qui constitue même, je dirais, l'ossature du projet porté par le...
Pour les dossiers C'est toi, par exemple, François Comeigne a annoncé il y a une semaine 20 œuvres, 20 ans, 20 œuvres, qui est le démarrage d'un projet, d'une œuvre d'art dans chacune des communes de l'agglomération, dans des espaces publics, qu'ils soient naturels ou urbains. Du coup, ce projet-là préfigure un projet plus large, si nous sommes capitale européenne, d'union d'œuvres d'art dans l'espace public sur l'ensemble du territoire de la candidature. Mais déjà, cette agglopole s'engage dans un projet d'œuvres d'art dans l'espace public sur les 4 prochaines années. Donc ça, c'est déjà un premier effet de la capitale européenne et d'une volonté politique de François Comeigne de travailler à unir un territoire d'agglomération à travers, quelque part, des totems, des marqueurs d'un territoire qui sont celles des œuvres d'art. Et je crois que aujourd'hui, quand on a discuté avec les territoires dont on a parlé, chacun a identifié un espace de son territoire. Par exemple, l'Hérault a identifié le Château Laurence, qui est un lieu magnifique, qui est un lieu qui va ouvrir l'année prochaine et qui va avoir une programmation exceptionnelle. Il y a tout le travail autour de l'histoire de la chanson française, autour de Bobby Lapointe à Pézenas. Le Pic Saint-Loup a misé sur le Château Montferrand. L'abbaye d'Agnan pour la vallée de l'Hérault. Chacune des territoires a identifié son projet majeur. Et ce projet majeur, c'est celui qui va unir nos territoires. Nous, c'est la Villa Salis dont je vous parlais, cet espace de résidence d'artistes. Et pour Montpellier, c'est la maison Basile autour du parc Mérique. Et vous voyez comment, en parlant de ces lieux qui sont des lieux à la fois de patrimoine, mais aussi de renvoi vers une contemporanéité, une relation aux artistes contemporains, et que tous nos territoires veulent promouvoir et veulent faire Europe avec ces nouveaux territoires de l'art.
Alors, on arrive à la fin de cet entretien, chacun a compris qu'on pouvait le prolonger, mais peut-être dernière question, est-ce qu'on peut dire à ce jour, sans risquer de se tromper, que même si Montpellier échoue, même si la candidature de Montpellier est le porte-bannière, ce mouvement-là se perdurera moins en partie, qu'il y aura un acquis de la candidature, je veux dire, pas simplement ce que sera, espérons-le, un acquis de la conquête du titre, mais un acquis de la démarche et de la mise en mouvement que la candidature induit.
Moi, j'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous établissez les espaces de parole, les espaces de dialogue, ils se poursuivent. Je vois les allers-retours entre les élus de nos territoires qui, aujourd'hui, viennent à Sète pour Escale à Sète, pour Michel Delafosse était à Gigean pour les vœux de François Comeigne de l'agglomération. François Comeigne y était à Montpellier pour les vœux de Michel Delafosse. Je crois qu'aujourd'hui... On est avec des gens qui ont compris que les barrières excluaient. Et donc aujourd'hui, on est dans un moment où il faut avancer. Et pour avancer, il faut être unis. Et donc sur des projets. Et je crois qu'on est à ce temps-là. Et la candidature de capitale européenne, c'est ce signal-là. Et je crois que c'est la volonté des hommes et des femmes politiques de ce territoire.
Très bien, merci Fabrice
Emmanuel. Merci Alain.
Et à une prochaine fois.
Merci beaucoup de votre invitation à Divergence.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.